Chapitre 7. Je savais que je te rencontrerais là, sage professeur que tu es, lui dit le jovial interne qui vient travailler à heure fixe. Ton métier n'est pas comme le mien. Il m'a fallu des ingéniosités et d'apache pour m'échapper de la leçon de Louvet. Il montrait d'ailleurs un cas bien intéressant, hein, une fracture de l'humérus par contraction musculaire chez un joueur de tennis. Mais j'ai quelque chose de trop particulier à t'apprendre sur ta laborantine et je suis venu ici. Sur Mademoiselle Gauthier ? Demanda Marcel. Oui, et sur un scandale dont elle a été l'objet hier soir au sortir de son hôpital. Quand je te racontais l'autre jour qu'il faut se défier les jeunes filles, tu me considérais comme un cynique avoueux. Eh bien, cette Paul Gauthier, cette mystique du labo et qui prenait devant ce nigaud discret ses attitudes de religieuse laïque. Elle a un amant. Et quel amant ! Cet Alfred Arny dont nous parlions l'autre jour. À cause de toi, j'ai lu son dernier bouquin, un certain lac caché, tout infecté de mysticisme lui aussi et qui a dû tourner la tête à cette petite. Toujours est-il qu'hier à 6 heures, il l'attendait à la porte des enfants malades en face de la rue Mosserand. Notre aimable couple était suivi par 2 camarades, 2 infirmières auxquelles ne prenait pas garde et qui ont assisté au drame ou plutôt à la comédie. Soudain surgit à l'angle d'une maison une femme qui s'élance vers nos amoureux, saisit le bras du jeune homme et s'adressant à la petite Gauthier, elle se met à lui faire une scène violente. Elle tutoyait Arnie comme une maîtresse trahie qui ne se possède plus. Les 2 petites de l'hôpital se précipitent pour préserver leurs camarades sur laquelle la forcenée levait le poing et elle l'entraîne pendant que le seigneur du lac caché s'éloigne lui-même en se disputant avec sa grue du grand gronde, paraît-il, car elle était très élégante, mais devant un flagrant délit d'infidélité, ces dames de la haute ont des colères de filles. « Mais comment as-tu su tout ce détail ?» interrogea Marcel. « Ben, par discrète, naturellement, qui était justement de garde ce soir-là. Le potin lui a été raconté aussitôt. Entre elles, oh, tu sais, ces petites laborantines ne s'épargnent guère. » Et ce breton de discorde était lui-même un petit niais de classe. Si c'était encore la morale, le mode des localisations cérébrales, bon, je dirais qu'il a la 3e circonvolution du cerveau à gauche très développée. Et moi aussi, puisqu'il m'a immédiatement téléphoné et que moi-même... Bon, naturellement, l'affaire n'aura pas de suite. Mais voici démontré que le romancier idéaliste du lac caché a 2 maîtresses. Et que l'une des 2 est la jolie laborantine sur laquelle tu cherches les renseignements conjugaux. En voyant les traits de son ami changer, l'étudiant, qui cachait une sensibilité vraie sous ses manières brutales, se demanda si vraiment il ne le cherchait pas pour lui-même, ses renseignements, et s'il ne venait pas d'être touché au vif de son cœur. Il s'interrompit pour demander gauchement: « Tu t'intéresses donc bien à celui qui voudrait épouser cette jeune fille ?»« Non, répondit Marcel, mais c'est toi qui me peines, et de voir la facilité avec laquelle tu accueilles des interprétations si peu justifiées. Entre Arny et Mademoiselle Gauthier, il peut cependant exister un sentiment délicat qui porte ombrage à une autre femme, et celle-là, devenue jalouse, aura fait la scène que tu me rapportes. » Passons donc aux enfants malades. Nous verrons bien quelle attitude garde Mademoiselle Gauthier vis-à-vis de ses compagnes. Ben, nous verrons que c'est une cabotine 100% et qui tient le coup, comme disent ces jeunes gens dans leur langage. Mais alors, en effet, je suis curieux moi aussi de cette expérience. Avais-je raison, dit-il, comme arrivés à l'hôpital, ils pénétrèrent dans le laboratoire où Paul se tenait assise devant sa besogne, aussi appliquée et en apparence aussi tranquille que si la scène de la rue Mosserand n'avait jamais eu lieu. « Cortet vous aura tout raconté, » dit à son tour discrète à Marcel, qu'il rencontra devant la porte de la salle. Oui, il paraît que notre petite Gautier a des côtés de fameuse, farceuse. Croirez-vous que j'aime mieux ça? Non. Cortés vous aura tout raconté, dit un centaure discoret à Marcel qu'il rencontra devant la porte de la salle. Oui, il paraît que notre petite Gautier a des côtés de farceuse. Croirez-vous que j'aime mieux ça? Ces petites font d'autant mieux leur service qu'elles mènent une double vie. Il y a là un phénomène de dualité qui rappelle ce que nous nommons en psychiatrie les états seconds. Ces médecins croient avoir expliqué ce qu'ils ont nommé, pensait Marcel dans le taxi qui le conduisait de nouveau boulevard Suchet. Il fallait qu'à tout prix son grand-père fût informé de l'événement et tout de suite. Mais quel homme est donc cet Arnie? Se demandait-il. Aime-t-il Paul? Alors la duplicité que suppose cette scène est inadmissible. Mais s'il ne l'aime pas, pourquoi s'occupe-t-il d'elle? À moins qu'elle ne soit tout simplement sa maîtresse, comme on le croit, Cortés, et une hypocrite qui a rencontré un débauché. Il se répétait, une hypocrite, or toutes les impressions qui se dégageaient de la personne physique et morale de Paul plaidaient là contre. Le premier cri du grand-père, quand son petit-fils lui rapporta le témoignage de Cortés, fut aussi une véhémente protestation. Mais c'est invraisemblable! Paul est si pur, si sérieux, si vrai. Que son fiancé, car ils se sont secrètement fiancés, puisse la trahir ainsi, qu'il ait lui une vie double et qu'il joue avec le cœur de cet enfant, mais ce serait monstrueux, surtout avec la sensibilité que montre son livre. Mais nous ne connaissons ce garçon que de loin. Comment il vit, son milieu, ce que les gens pensent de lui, qui nous le raconte? Vraiment, je saurai, moi. Je saurai, oh, il y a des moyens. Je vais mettre en œuvre celui que nous employons dans notre métier, quand nous nous défions, le suiveur. J'en ai à mon service, justement, un excellent. Qu'entendez-vous par là? Dit Marcel. Oh, c'est un procédé sans élégance, mais ça, c'est la lutte pour la vie. Quand nous soupçonnons des gens de nous trahir, de brocanter à des concurrents des secrets concernant notre affaire, nous les faisons filer comme un mari jaloux fait suivre sa femme pour se renseigner sur ses fréquentations. C'est de la police, mais trop légitime. Tu soupçonnes pas quelles intrigues se combinent autour de nous. Tiens, dans mon entreprise d'automobile. Un rival s'est procuré ainsi des renseignements sur une invention qu'il m'a chipée par l'intermédiaire d'un dessinateur qui allait de mon atelier directement chez lui. Alors je vais faire suivre Alfred Arny par mon bonhomme. S'il a une maîtresse, elle reste certainement en défiance. La scène de la rue Masserand le prouve. Arny voudra l'endormir ces temps-ci, cette défiance, en multipliant les rendez-vous. Et où se donnent ces rendez-vous? Mais notre suiveur nous le dira tout de suite et nous tiendrons la preuve qu'Arnie est un imposteur, à moins que. Il ferma les yeux pour dominer une idée qu'il n'acceptait pas. Que Paul soit la maîtresse de ce monsieur, ça ne se discute même pas. Il la trompe, mais comment était-il si calme ce matin, et elle si sensible, après l'incident d'hier? Enfin, je vais m'inquiéter de mon suiveur. Toi, passe donc chez Guillequin et vois le frère. S'il avance de quelque chose, il ne te le dira pas, mais tu lui parleras d'Arnie à propos de son livre. Tu verras bien s'il est à son égard dans les dispositions de l'autre jour. Marcel rencontra chez le libraire le même accueil cérémonieux et courtois. Le frère de Paul ne savait évidemment rien. La réimpression de l'ouvrage du père d'Espargeret sur le symbolisme, dit-il, avance vite. Et j'espère vous communiquer les bonnes feuilles, monsieur Bréchet, d'ici à 2 jours. Vous avez aimé les livres de monsieur Arny que vous avez emportés l'autre jour? Il est noblement pensé, n'est-ce pas? Nous sommes fiers, ici, d'amorcer un si fort tirage avec un volume pareil qui atteste que les beaux sentiments ont encore un public. Avisant un téléphone posé sur son bureau, il demanda, s'adressant à quelques services intérieurs, « Combien restait-il du lac caché ?»« 2403, » répondit une voix. Et Gautier, traduisant ce livre « Chiffre commercial » dans son vrai sens, dit, après avoir consulté une note à portée de sa main, « Bah, avant-hier, c'était 3 000. En 2 jours, plus de 200 de parties, et nous avons tiré à 30 000 il y a un mois. » « Il n'est tout de même pas possible, » pensait Marcel, « qu'il se rencontre une telle contradiction chez cet homme. Certains succès créent des devoirs, ou bien ils deviennent des hontes. On n'imaginait pas un Pascal adultère. Les deux visages de Janus, c'est la mythologie. » Il ne se doutait pas, tandis qu'il s'éloignait de la rue Saint-Guillaume pour gagner encore une fois celle de Sèvres et l'hôpital des enfants malades, qu'à la même heure et dans une des rues paisibles du quartier, se jouait une des scènes les plus énigmatiques de cette dualité sentimentale dont Alfred Harny était à la fois l'acteur coupable et peut-être la victime. Aussitôt au sortir de la terrible scène de la rue Masseran, Paul, rentré chez elle, avait eu, devant sa mère épouvantée, une violente crise de larmes. La vieille femme avait en vain essayé d'en connaître les causes. « Non, je suis nerveuse, » répondait simplement la jeune fille, « et sans motif. Je ne dînerai pas, maman, ce soir, je vais me coucher. J'ai trop mal à la tête. « Dors-tu ? » lui demanda sa mère à mi-voix 1 heure plus tard. On apporte une lettre pour toi avec la mention très pressée. Donne-la-moi, maman, dit Paul, et déchirant d'une main fiévreuse l'enveloppe sur laquelle elle reconnaissait l'écriture d'Arny, elle lut. Ma Paul, demain à midi, trouvez-vous aux bénédictines de la rue de Monsieur. Je vous attendrai. Je vous jure, ma chérie aimée, que je n'ai rien à me reprocher. Je vous expliquerai dans sa vérité le déplorable incident de tout à l'heure. Je vous demande de ne pas douter de votre fiancé sur des apparences qui, je vous le répète, ne touchent en rien au sentiment que mon cœur vous avouait et qui demeure la fierté de ma vie. Croyez-moi, ne me jugez qu'après m'avoir entendu. Alfred. La mère se tenait auprès du lit. Elle reconnaissait aussi l'écriture sur l'adresse, et tout émue à l'idée des paroles qu'elle allait sans doute écouter. « On attend la réponse, » demanda-t-elle après une minute. « Dis que c'est bien, » fit Paul. Et sans autre explication, elle replia la lettre et la glissa sous son oreiller, en ajoutant simplement « Je te remercie, maman, de m'avoir remis ce mot tout de suite. Je vais dormir. » Y aurait-il quelque chose entre elle et son fiancé, se demandait Thérèse Gautier. Elle se rappelait quelle violente secousse nerveuse elle subissait elle-même au temps où elle aimait Marcelin Bréchet. Elle se rappelait aussi combien, dans ces minutes si lointaines, l'affectueuse sollicitude de son mari lui faisait mal. Elle se retira sans questionner Paul, en se disant que le lendemain, elle interrogerait sa fille si cette nervosité continuait. Mais quand les deux femmes se retrouvèrent au réveil de Paul, celle-ci était calme et la mère n'osa point poser une question qui risqua de renouveler le trouble passé. L'affirmation d'Arny avait suffi pour produire ce miracle et surtout le rendez-vous donné dans la petite chapelle de la rue de Monsieur. L'écrivain du lac caché n'avait pas seulement dans son livre ce mysticisme sentimental qui avait ensorcelé cette âme de jeune fille. Il y joignait la simulation d'une religiosité nostalgique, celle d'une incroyance qui souffre de ne pas croire. C'était une prise de plus sur la pieuse laborantine qui, en réaction elle-même contre le matérialisme primaire de beaucoup de ses compagnes, nourrissait l'espoir de ramener complètement son fiancé à la foi qu'elle tenait de sa mère. Il l'avait suivi souvent à la messe, dans cette pieuse chapelle, chère à d'autres écrivains de notre époque, les fidèles du malheureux Huysmans, qui lui du moins prouva la vérité de son catholicisme autrement que par des livres. Mais Harney restait simple au travers des plus disparates contradictions. Il était de ces compliqués fonciers, si l'on peut dire, véritables métis psychologiques, qui mélangent en eux deux races d'âme et, quand ils sont tournés vers la littérature d'imagination, bien loin de réduire leur complexité à l'unité, ils se plaisent dans des avatars mentaux déconcertants pour ceux qui les observent et qui qualifient d'hypocrisie ou de cabotinage des sincérités simultanées ou successives et contradictoires. En s'agenouillant, lui, le sceptique, et qui se disait tel, sur les marches d'une chapelle auprès de la pieuse Paule, il ne mentait plus. Il se procurait une sensation qui remuait certaines fibres de son cœur. Il devenait le rêve vivant de cette jeune fille. Il l'était momentanément. Et s'il faussait la vérité dans les discours qu'il lui tenait sur sa détresse religieuse, il ne s'en doutait même pas. Une pareille anomalie, qui faisait de lui tout ensemble un libertin et un amoureux pur, à demi chrétien, se retrouve chez quelques poètes dont les accents excluent toute idée de simulation, et puis leur biographie révèle d'irréductibles antinomies entre leurs pages les plus émouvantes et leurs actions. Le cœur battant, les larmes au bord des yeux, voici les phrases que le fourbe prononçait à mi-voix dans l'ombre de cette chapelle déserte, à l'oreille de sa dupe, qui gardait encore au front un peu de l'eau bénite de sa prière. Cette femme qui nous guettait hier, rue Masserand, à la porte de votre hôpital, Paul, c'est une femme mariée avec laquelle j'avais, quand je ne vous connaissais pas, une liaison coupable. Je n'ai eu la force de rompre qu'à cause de vous. Elle était très jalouse, elle l'est restée. Comment a-t-elle su notre intimité? Je l'ignore, mais la scène d'hier et l'endroit prouvent qu'elle l'a su. Elle avait évidemment perdu la tête. Elle a cru que par cet éclat, elle nous séparerait. Elle ne vous connaît pas, ni le culte que je vous ai voué, ni notre engagement réciproque. Je ne le lui ai pas dit quand je l'ai entraînée pour ne pas exaspérer encore sa jalousie. Mais je lui ai déclaré que je ne lui pardonnerai de ma vie et que je ne la reverrai plus jamais. Elle m'a quitté en sanglotant. Oh, je suis sûr qu'elle m'obéira car elle est orgueilleuse. Mais elle peut avoir des retours de colère. Il faudra que nous arrangions nos rendez-vous avec plus de prudence. Si toutefois, et suppliant, si vous me croyez et si vous ne me croyez pas, je trouverai cela trop injuste. Ce sera le châtiment. Je vous crois, répondit Paul, qui s'était agenouillé à nouveau après ce discours. Son beau visage exprimait une ferveur qui émut cet imposteur sincère. Si vous ne vous mentiez, vous ne seriez pas vous-même, je vous crois. Mais agenouillez-vous aussi et dites un pater avec moi. Il paraîtra invraisemblable ou monstrueux que cette scène ait pu être suivie de l'après-midi que le suiveur professionnel révéla le soir au grand-père Marcelin Bréchet. « Bonne chasse, patron !» commença ce policier improvisé en lui rendant compte de sa mission en termes si génétiques. « Le gibier est pris !»« Vers 2 heures, Monsieur Harney sort de la rue de Richelieu où j'attendais, comme nous avions dit, en vue du bureau de son père. Il est là un taxi. » J'ai pu en ailer un autre et le filer. Il se fait conduire à Passy, rue des Marronniers. J'ai bien entendu noté le numéro dans une des maisons presque solitaires que l'on y a construite avec un petit jardin. Il était un peu moins de 3 heures. Une dame arrive, très élégante et qui semblait inquiète. Par quelques mots échangés avec une concierge du voisinage, j'ai compris que M. Harney possède là, sous un faux nom, une petite garçonnière. La dame est ressortie, seule après 1 heure environ, calme maintenant. J'ai pu la suivre encore. Elle a pris, elle, un taxi rue de Ranelagh. Elle s'est arrêtée avenue d'Iéna. J'ai relevé aussi le numéro. Elle a fait quelques pas pour entrer dans un hôtel privé, le sien. J'ai su cela encore. Oh, je les habille un peu partout. Elle s'appelle Mademoiselle Madame Cancel et c'est la femme d'un ancien ministre, tout simplement. Voilà, patron, vous êtes content de moi, j'espère, et que vous me trouverez une bonne place où j'ai pas à faire le quart d'œil. J'irai au cercle ce soir, dit l'homme d'affaires à son petit-fils en lui rapportant ce discours. Ce Cancel est un de ces bas politiciens à tout faire que les malins fourrent dans des cabinets de passage. Ces lascars-là multiplient leurs relations pour avoir ce que leur femme appelle un salon. Je trouverai bien quelqu'un qui me donne des détails sur ce ménage. Si c'est celle à détraquer de la rue Massan, qui a risqué ce paquet-là, elle est évidemment la maîtresse d'Alfred Harney. Est-ce une liaison passagère, un caprice ou, comme disent les gens communs, un fil à la patte? Dans un cas, il aurait une excuse. Dans l'autre, en attendant, je vais hâter à tout hasard la fondation de mon institut. Quand Raymond parlera de la dot enfin trouvée à l'amant de Madame Cancel, car cette femme, c'est Madame Cancel, il n'a-t-elle pas trois quand même? Nous verrons bien ce qu'il répondra. Il doit y voir juste, raisonnait Marcel après cette conversation. Ces deux attitudes remarquées par le suiveur, cela, c'est un indice sûr d'une identité entre la détraquée de la rue Masseron, comme dit grand-père, et cette femme du politicien. Il pense ainsi et il continue à chercher le moyen d'assurer à Paul cette date qui lui permettra d'épouser cette Harney. Lui-même n'a pourtant pas ressemblé à ce fourbe. Quand il aimait Thérèse Gautier, je ne le vois pas, ayant une autre maîtresse à côté. Lui, si entreprenant, si décidé, il hésite à éclairer Paul sur le compte de ce monsieur. Mais que craint-il donc? La réponse à cette question était toute simple. Elle le travaillait depuis qu'il avait offert à son aïeul de l'aider dans la préparation de cette dot. Mais ce qu'il craint, continuait-il, c'est que Paul, si réfléchi, si habitué par son métier à la recherche des causes, ne se demande d'où vient l'intérêt qu'elle lui inspire et pourquoi il veille si ardemment sur son bonheur. Mais ne montre-t-il pas le même dénouement au frère? Le souvenir de l'employé tué à son service ne suffit-il pas à tout expliquer? L'image de Raymond Gautier surgit dans son esprit, le mit de nouveau en réaction contre les hésitations de son grand-père. « Ce Raymond, pensa-t-il, est un homme vrai. Admettrait-il le silence vis-à-vis de sa sœur et de la laisser engager dans une passion sans issue? Car cette liaison de cœur avec Harney, liée lui avec une femme mariée, Paul ne la supportera pas, si elle est, elle, la jeune fille pour laquelle elle se donne. » Il faut savoir si cette histoire avec cette Madame Cancel est, comme dit grand-père, une aventure de passage, et Paul a le droit de le savoir. Le frère seul pourra tirer la chose au clair et mettre cet étrange Harney en demeure de se conduire loyalement. Il exigera de lui une rupture avec cette maîtresse. Cette promesse vaudra ce qu'elle vaudra, mais elle doit être donnée. Sinon, c'est l'autre rupture, celle des fiançailles qui s'impose. Oh, si quelqu'un peut mettre de l'ordre dans ce désordre, c'est Raymond. Il continuait de raisonner ainsi. Puis il tombait à son tour dans l'hésitation qu'il reprochait à son grand-père. Bof, je connais si peu le monde, se disait-il. Mais à qui demander conseil? La seule personne à qui j'ai parlé un peu sincèrement de Paul, c'est Cortet. Pourquoi ne pas prendre son avis, sans lui dire le détail exact? Instinctivement, il s'acheminait à travers ses réflexions vers la boutique de Guilquin. Il changea de direction et alla d'abord à la Hennec, où l'interne l'accueillit avec des éclats de rire. À vous la vérité, allez, tu viens encore me parler de Mademoiselle Gauthier. Tiens-toi donc tranquille, écris à tes amis de Nevers qui ne pensent plus à ce mariage. Alors tu n'es pas d'avis que l'on pourrait faire faire une enquête par quelqu'un de la famille de Mademoiselle Gauthier, son frère par exemple, sur l'existence de cet Alfred Arny? Son frère? Oh, veux-tu toute ma pensée? Il est le complice de sa sœur. Si tu lui parles d'un projet de mariage avec quelqu'un de Nevers, il te demandera si ce quelqu'un est riche, s'il a des sous, comme ils disent dans le peuple. Alors tu ne vois pas le moyen de savoir la vérité sur cette histoire Arny? Quelle vérité? Il n'y en a qu'une. Deux femmes se crêpent le chignon, si l'on peut parler de chignon aujourd'hui. C'est qu'elles sont bêtement toquées d'un gigolo qui lui s'en tamponne le coquillard avec une patte de homard prolongée. Perds pas ton temps à chercher les dessous de pareilles histoires et pense plutôt à ton Janus. Chapitre 8. Que je suis sot, se disait Marcel en quittant Cortès, de venir demander son sentiment à ce brave Justin sur une situation compliquée aux données de laquelle je ne peux même pas l'initier. Ma première idée était la vraie. Le fils d'une veuve devient le chef officiel de la famille. Il doit être enseigné le premier sur la véritable conduite du fiancé de sa sœur, s'il en a une. Grand-père hésite à lui parler, à lui, cela se comprend, avec le secret qu'il défend, mais moi aussi, j'ai à défendre cette sœur, puisqu'elle est de mon sang, hors la loi, mais de mon sang tout de même, celui qui coule dans ses veines. Il regardait sa main en l'ouvrant et la refermant pour mieux voir les minces lignes bleues de sa peau. Alors, du courage. L'arme efficace dans cette bataille, elle est là. Il ouvrait la porte de la librairie et déjà Raymond Gauthier, qu'il avait vu venir dans la rue, secouait un paquet d'épreuves. Il le tendit à son visiteur en l'introduisant dans son cabinet. « Les bonnes feuilles du livre de Pierre des Majorets, lui écriait-il, elles y sont toutes. » « Il ne s'agit pas du père des Margerets, répondit Marcel à mi-voix, en poussant derrière lui la porte qu'il referma, ni de mon Janus. Je viens, monsieur Gauthier, faire auprès de vous une démarche que vous ne jugerez pas extraordinaire, vu l'intérêt si naturel que porte mon grand-père, monsieur Marcelin Brechet, à la famille d'un homme mort à son service. » « Oh, monsieur Brechet nous l'a prouvé, cet intérêt, répondit Raymond, dont le visage exprima une surprise. Marcel avait déjà remarqué, lors de sa première visite, cet embarras devant son grand-père. Était-ce autre chose que la sorte de gêne de l'obligé vis-à-vis d'un bienfaiteur auquel il ne peut rien rendre? Cette surprise s'accentua quand le petit-fils de ce bienfaiteur continua. Je viens vous parler au sujet de mademoiselle votre sœur. Et il ajouta, non sans un scrupule de ce mensonge, mais pas sans outre, de la part de mon grand-père. « Ma sœur, la laborantine ?» interrogea Gauthier, plus étonné encore. « Ah, vous ignorez, je m'en rends compte, l'infamie dont elle a été la victime avant-hier. »« L'infamie ?» dit le frère. « Je l'ai vue hier et ce matin, elle ne m'a parlé de rien. » Marcel ne lui laissa pas le temps de poser des questions qui eussent redoublé son propre trouble. Il rapporta d'un coup au frère, visiblement stupéfié, tous les détails qu'il tenait de Cortès d'abord, puis de son grand-père, en répétant par prudence et pour expliquer l'enquête de celui-ci sur les secrets de la vie d'Alfred Arny, la phrase déjà dite sur le motif profond et naturel d'un tel intérêt. Raymond écoutait sans répondre. Il poussa une exclamation quand le nom de Madame Cancel fut prononcé. « Mais notre cliente, s'écria-t-il, elle qui admirait tant le lac caché, elle en a commandé plus de 10 exemplaires, mais est-ce possible ? J'avais bien remarqué plusieurs fois, quand je parlais d'elle à monsieur Hanoï, qu'il se dérobait à la conversation. Il ne ressemble guère aux autres auteurs, toujours occupés à vous questionner sur ce que l'on dit d'eux, acheteurs ou confrères. Je comprends que monsieur Bréchet ait tenu à m'avertir aussitôt. C'est bien de lui. Il n'aura pas voulu prévenir maman directement. Elle est si sensible. Il ne vous a pas donné un conseil à me transmettre sur ce que je dois faire vis-à-vis d'elle ? Non, répondit Marcel. Dois-je parler à Paul d'abord ? Continuait Raymond, pensant tout haut. Pour qu'elle ait rien dit à notre mère ni à moi, il faut qu'elle ait ses raisons. Et avisant son chapeau, ah, c'est avec Alfred Harney que je dois causer tout de suite. Cette aventure est tellement contraire à ce que je sais de lui, à son caractère, à son livre. Il avisait un exemplaire du lac caché posé sur la table. Il faudra bien qu'il s'explique. Et merci à vous, monsieur Bréchet, ainsi qu'à monsieur votre grand-père, d'avoir tenu à m'avertir de cette horrible chose. J'étais si fier de ce mariage, non pas pour la fortune, mais parce que j'admire tant cette œuvre. Il tournait et retournait le volume. Je saute dans l'âme, je suis rue de Richelieu en 10 minutes, et je reviens, pourvu qu'il soit là. J'aurais dû lui offrir de le conduire en taxi, pensa Marcel, en voyant le frère de Paul courir vers l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Guillaume. La petite preuve d'économie que donnait Raymond, et qui prouvait ses habitudes de restriction, justifiait sa remarque de tout à l'heure sur la différence de fortune entre la pauvre laborantine et le fils de l'opulent agréé. Mais comment Alfred Harney, pensait encore Marcel, n'a-t-il pas compris que ses fiançailles secrètes avec une jeune fille d'une autre classe lui créaient des obligations d'une plus stricte loyauté ? Quelle excuse va-t-il inventer ? Je vais le savoir, Gauthier m'a dit, je reviens. C'était me dire de l'attendre, décidément, j'ai bien failli de lui parler. Il s'assit en ouvrant à son tour le roman inexplicable du fourbe, tandis que l'autobus déposait Raymond rue de Richelieu devant la maison où l'agréé avait à la fois son étude et son appartement, autre symbole du contraste entre la pauvreté de Paul et la fortune de Harney. Le frère de la fiancée trahie n'y prit pas garde, non plus qu'à un autre contraste, celui de la littérature toute aristocratique du lac caché, avec l'atmosphère de vieille basoche où son auteur avait grandi. Mais un écrivain tient toujours au milieu dont il sort, soit par une conformité d'idées et de sentiments avec ce milieu, soit par une réaction qui justifie le mot du philosophe allemand. Le moi se pose en s'opposant. Le fils de l'agréé s'était ainsi construit, dans ce milieu de l'égalisme juridique, un personnage mi-factice, mi-sincère, qu'il allait pour la première fois expliquer systématiquement et s'expliquer peut-être à lui-même. Il était là. Dès l'entrée de Raymond, il comprit que celui-ci savait tout au moins la scène de la rue Masseran. Que Paul lui racontait à son frère, c'était trop naturel, et que celui-ci retira sa main quand Harney lui tendit la sienne. « J'attendais votre visite, Raymond, commença-t-il. Je me rendais trop compte que le secret de ce scandaleux épisode ne serait pas gardé. Si vous l'avez appris par Paul, elle a dû vous dire aussi qu'elle me pardonnait une aventure déjà ancienne et qui date du temps où je ne la connaissais pas. Mais vous lui avez menti une fois de plus à la pauvre petite, répondit Raymond avec la rude franchise de l'homme du peuple qu'il était tout au fond. Elle vous a cru. Mais je sais, moi, qu'hier encore vous receviez cette maîtresse à Passy, rue des Marronniers, où vous avez votre garçonnière. Alors dites-moi donc la vérité à moi, qui vous admire tant comme écrivain. Ne déshonorez pas devant moi l'auteur du lac caché. Cette maîtresse, avouez que vous l'avez toujours. Par sensualité, par faiblesse, je pourrais vous comprendre, vous plaindre. Je ne serais pas obligé de vous mépriser. » Et cette dernière phrase fut dite avec un tel accent de souffrance que l'imposteur en resta ému malgré lui. Et puis il se produit dans des natures complexes, comme était la sienne, à de certaines heures un besoin de s'extérioriser, de se montrer tel que l'on est, avec une ingéniosité, une innuité déconcertante. D'où vient cette ingénuité qui n'est ni de cynisme ni de la vanité, quoiqu'elle tienne de l'un et de l'autre de ses vices ? « Je ne suis pas un monstre, Gautier, » répondit-il, et sa voix même était changée. Il y passait comme un souffle d'une sincérité à la fois complaisante, involontaire et douloureuse. « Oui, j'ai eu la faiblesse de ne pas rompre cette liaison. Cela avait quelques remords. Je n'en étais pas moins passionnément épris de votre sœur. C'est tout moi, cette dualité. Je suis plusieurs êtres. Mon imagination d'artiste veut que j'éprouve simultanément et réellement des sentiments contradictoires. Jamais je n'ai été de meilleure foi qu'en écrivant, par exemple, ce lac caché. Vous y avez reconnu des qualités d'émotion pures qui me sont venues en aimant votre sœur. Car je l'ai aimé, je l'aime, et ce sentiment si vrai, ma faute est de l'avoir défendu par le mensonge. Voilà 3 mois que je mène auprès d'elle cette vie de fiancé secret, que je n'ai pas eu le courage de compromettre en l'initiant, elle, si simple, si droite, à une erreur dont je n'avais pas la force de m'affranchir. Je vais vous avouer une anomalie que vous jugerez abominable. Cet aveu vous prouvera ma sincérité. Ma maîtresse, une femme mariée, j'en étais déjà bien lassé quand j'ai connu Paul. L'antithèse entre cette libertine et votre admirable sœur aurait dû me dégoûter de ma complice. Et l'effet contraire s'est produit. Une espèce d'attirance que j'oserais qualifier de criminelle s'est substituée à ma lassitude. Je me suis repris à désirer cette maîtresse qui satisfait les pires côtés de mon être, tandis que l'autre, ma fiancée, caressait les meilleurs. Oh, je ne dirais pas que j'ai traversé 2 amours qui s'exaltaient l'un par l'autre, et cependant, condamnez-moi, Raymond. Étant le frère de Paul, vous en avez le droit, mais comprenez-moi. Reconnaissez que je suis aussi malheureux que coupable. Oui, condamnez-moi, mais reconnaissez que j'ai été, que je suis, la victime d'une fatalité sentimentale qui tient au plus intime de ma personnalité d'artiste. Plaignez-moi, mais ne me méprisez pas. » Cet étrange discours s'accompagnait d'un trouble si poignant, les traits du menteur qui se démasquait lui-même exprimaient une telle détresse que l'homme simple auquel s'adressait cette confession sentait son indignation s'abolir. Elle laissait la place à une pitié révoltée, mais qui ne pouvait plus juger. Le lecteur en lui admirait tant les délicatesses de l'écrivain. Il s'était pénétré si profondément de cette sensibilité qu'il subissait comme un vertige à découvrir de tels abîmes dans ce qu'Alfred Arny avait défini lui-même sa personnalité d'artiste, et réagissant contre une complaisance qu'il associait malgré lui à ce demi-cabotinage, il fit appel à ce qui restait pourtant d'honneur dans cette âme incohérente et répondit « Non, Arny, je ne vous méprise pas. Je ne peux pas ne pas estimer votre franchise. Mais ne sentez-vous pas que vous n'aviez pas le droit de jouer avec ce cœur de jeune fille et que vous devez maintenant vous abstenir de ce jeu et l'interrompre ? Vous devez !» Et il insistait sur ce mot en le prononçant. « Ou bien briser toute relation avec Paul, ou bien vous reprendre et redevenir le fiancé scrupuleux qui se considère comme engagé d'honneur à n'avoir dans sa vie qu'un seul amour et un seul but, le mariage. » « Mais vous savez qu'il y a un obstacle, » répondit Arny. « Oui, le refus d'autorisation de monsieur votre père, » fit Raymond. « Passez outre. » J'y ai pensé, mais c'est si grave. Fonder un foyer rebelle, renier toutes les traditions de la famille, j'ai reculé. D'autre part, mon père restera-t-il irréductible? Quand il verra que je me considère comme lié par un engagement imbrisable et qu'il saura que l'existence mène Paul, cette nonne laïque d'un laboratoire d'hôpital, il acceptera l'idée d'avoir une bruit sans dot, d'autant plus que nous sommes riches. Je n'ai ni frère ni sœur. Je pourrais même suffire à un ménage avec mes droits d'auteur. Vous le savez mieux que personne. Gauthier, je vous demande de me faire un peu de crédit et d'attendre. Vous voulez que ma double vie cesse, c'est promis. Je n'aurai plus d'appartement ou des marronniers. Vous pourrez vous renseigner et le constater. Plus de maîtresse. Et merci d'avoir été simple et même brutal avec moi. Tout de même, vous ne me mentirez pas auprès de Paul sur qui ce que je lui ai dit, que cette liaison était une histoire d'autrefois. Non, répondit Gauthier, puisque j'ai votre parole pour l'avenir. Tel était sur lui le prestige de son auteur favori, qu'il quitta le perfide Arny en lui tendant cette fois la main, et qu'en regagnant la librairie Gilles Quint, il tremblait de n'y pas retrouver Marcel. Il tenait, sinon à justifier entièrement l'imposteur, du moins à diminuer sa faute auprès du messager du vieux Bréchet. Heureusement, il m'a attendu, se dit-il, en voyant au fond de la boutique le jeune professeur penché maintenant sur le volume du père des Majorets, qu'il feuilletait sans s'intéresser vivement vraiment aux images de Janus dans les monnaies impériales, le plus curieux des chapitres du livre. Il s'y rencontre plusieurs reproductions d'une médaille datant du règne de Commode. Le dieu y est représenté avec deux visages, une barbe sur l'un et l'autre imberbe. Il tient d'une main un bâton, de l'autre un arc d'où s'échappent les quatre saisons. Un enfant placé en face figure-t-il l'année? Marcel reprenait pour la sixième ou septième fois le passage dans lequel le Pierre des Margerets commande ce document significatif. Il interrompait sans cesse sa lecture à chaque ouverture de la porte. Enfin, il aperçut Raymond, qui débouchait du boulevard Saint-Germain. Celui-ci, encore tout excité, attendit à peine d'être dans la boutique pour répéter les confidences d'Arny avec une conviction qu'il communiqua aussitôt à son interlocuteur. Pourtant, plus averti par les propos de Cortet et ne subissant pas la séduction exercée sur l'employé de librairie par les milliers d'exemplaires déjà écoulés du lac caché, le petit-fils de l'homme d'affaires aurait pu se défier davantage. Mais le professeur, habitué par l'étude des poètes latins et grecs à l'analyse des complications sentimentales, devait accepter d'instinct celle de Harney. C'est encore un des sens du « Suave Mari Magno » de Lucrèce que le conseil de se complaire au spectacle des passions dont nous sommes exempts. Cette crise psychique d'un incertain pris entre un amour pur pour une chaste jeune fille et un égarement coupable dans les bras d'une femme mariée, quel tumulte moral en regard de l'existence de Marcel dans cette calme ville de Nevers dont la monotonie l'accablait si souvent. Du moins, il ne serait pas venu à Paris pour rien s'il contribuait, par Raymond Gauthier et par son grand-père, à préserver le bonheur de la fille illégitime de ce grand-père et à redresser la sensibilité faussée d'un écrivain de talent. Il courut donc aussitôt vers le boulevard Suchet, transmettre le message dont il se trouvait chargé par son entretien de la rue Saint-Guillaume. Lui-même, à mesure qu'il le rapportait, ce consolant message, en sentait bien les invraisemblances. Cependant, le vieux Bréchet parut les accepter, tant il était calme pour répondre en hochant la tête. Après tout, hargni peut être sincère. En vieillissant, Marcel, tu apprendras qu'une nature humaine est complexe. L'invraisemblable y est quelquefois vérité. Je l'ai beaucoup suivi, ce jeune homme, comme tu penses, depuis sa rencontre avec ma Paule. Quel singulier début d'idylle encore. Le docteur de M. Hargni, le père, appréhende une azotémie chez son client. Il fait venir une laborantine pour faire au malade une prise de sang. Tu sais en quoi la chose consiste. On met à nu le bras du patient, on le pique à la jointure et on emporte le sang pour l'analyser. Et le hasard veut que Paul soit chargé de cette besogne. Elle trouve le moyen d'être si sérieuse, si adroite et si jolie dans cette moliéresque opération que sa grâce touche le cœur du fils inquiet. Il y a 4 mois de cela, et j'ai bien observé la qualité de la cour qu'il faisait à Paul. Il l'a vraiment respectée comme une fiancée. Tu as vu, quand je t'ai parlé du suiveur de la rue des Marronniers, comme je m'indignais. Monstrueux, tu répétais-je, monstrueux, mais j'avais tort. Évidemment, Alfred est faible. C'est un émotif, mais de bonne foi. Et puis Paul l'aime. Faut-il l'éclairer et lui dire la vérité? Ou bien dans son propre intérêt, lui laisser croire que cette aventure avec Madame Cancel appartient au passé? Dans tout état de cause, il faut que ces fiançailles aboutissent à un mariage. Et par conséquent, mettre Alfred Hargni devant un devoir positif. Donner son nom à une jeune fille et lui prendre sa vie constitue tout de même un engagement devant lequel il reculera si la rupture immédiate et définitive avec sa maîtresse n'est pas possible. C'est tout de même un bourgeois, fils de bourgeois, et la délicatesse de son livre, malgré son maniérisme, prouve qu'il a gardé le fond de mentalité de sa classe. Hier, au cercle, j'ai appris que cette Madame Cancel passe pour une femme assez légère. Elle a 35 ans. Cette scène de la rue Masseron n'aurait été qu'une fourcade, la crise de colère d'une femme qui se sent lâchée pour une rivale plus jeune. Elle appréhende le mariage, ce mariage auquel M. Hargni père s'oppose, sans doute par préjugé contre la profession de Paul. Ben, j'ai décidé, moi, de lui parler, car l'affaire de notre institut peut être considérée comme conclue. L'objection de l'absence de dot tombe aussitôt. Oh, je saurai à quel homme nous avons affaire, et nous entrerons dans une vérité totale. Mais l'intérêt que vous portez à Paul, comment l'expliquerez-vous? Ben, toujours de même, par le souvenir de Gautier, mort à mon service. Il ne faut pas tarder. J'irai aujourd'hui même à son étude rue de Richelieu, après 2 rendez-vous d'affaires que j'ai encore cet après-midi. Si vous le permettez, dit Marcel, je vous accompagnerai, je vous attendrai à la porte devant la maison. Comme tu es affectueux, dit le grand-père. Ce sera vers 4 heures, et nous aurons encore le temps d'aller aux enfants malades, annoncer à notre laborantine la position nouvelle qui lui est préparée dans notre institut. Quand j'ai eu la pensée de cet institut, que cela l'étonnerait s'il n'avait pas toujours la même raison à lui donner qu'à M. Hargni tout à l'heure, et qu'à Raymond quand je lui ai procuré cette place chez Gilles Quint. Hélas, mon vrai motif, je ne peux pas lui dire. Il y a les silences qui sont des expiations, les pires. Chapitre 9. Tout en faisant les 100 pas quelques heures plus tard sur le trottoir de la rue de Richelieu, Marcel se rappelait de quel accent poignant le véritable père de Paul avait prononcé cette dernière phrase. Pour M. Hargni, se disait-il, le prétexte paraîtra peut-être suffisant, mais elle, avec l'esprit de réflexion dont témoigne sa physionomie et les habitudes d'analyse exacte de son métier, Ne trouve-t-elle pas déjà très énigmatique la sollicitude émue que grand-père lui témoigne à chaque occasion? Cette fois, cette sollicitude va bien loin. Il est vrai qu'il s'occupe aussi du frère, mais quelle différence! Et puis il y a la mère. Telle que grand-père me l'a peinte, son attitude vis-à-vis de l'ancien patron de son mari, son ancien amant et le père de sa fille doit être bien singulière pour qui voit de près leur rapport. Paul est évidemment si attentif, si observatrice. Mais voici grand-père, oh, il a le visage tout décomposé. Que s'est-il donc passé avec Monsieur Hardy? Sans même lui laisser le temps de poser une question, Marcelin Bréchet avait, sur le pas de la porte, saisi le bras de son petit-fils d'un geste de détresse, et il l'entraînait jusqu'aux galeries du Palais-Royal, où il se laissa tomber sur un banc. « Mais qu'y a-t-il ? » interrogea le jeune homme épouvanté de ce silence. « Il y a, répondit le vieillard, que j'avais raison dans mon premier cri. Ce jeune Alfred Hardy est un monstre. Oh, laisse-moi reprendre mes esprits pour te raconter la scène cruelle à laquelle je viens d'être mêlé. Monsieur Hardy père m'a reçu presque aussitôt. Il connaissait mon nom et aussi mon affaire actuelle, qui, entre parenthèses, va si bien que je n'aurais même pas besoin d'accepter ton argent si ce mariage pouvait avoir lieu. » « Il ne le peut plus ? » s'écria Marcel. « Par la faute d'Alfred Hardy ? » ?»« Par sa faute et comment ? Oh, j'ai trouvé dans notre Hardy un type accompli de l'homme de loi, un peu raide, cérémonieux, correct. Je l'ai vu littéralement stupéfait par la démarche que je venais faire auprès de lui. « Mais vous avez été mal renseigné, monsieur, m'a-t-il dit. » Jamais le nom d'une demoiselle Gautier n'a été prononcé entre moi et mon fils, qui d'ailleurs ne me parle jamais de mariage. Jamais, ai-je demandé aussi stupéfait que lui. Jamais, a-t-il insisté. Alfred est un fils unique, il aura une belle fortune, et il sait parfaitement, en connaissant mes idées, que je ne suis pas de ceux qui feraient d'une question d'argent une objection à un mariage d'amour avec une jeune fille honorable. Veuillez, monsieur Bréchet, me préciser les faits qui vous ont déterminé à une visite pour moi inexplicable. Je vous le répète, mon fils n'a jamais même prononcé devant moi le nom de mademoiselle Gautier. Son dernier livre, que vous avez certainement lu et qui ne me plaît guère, malgré son succès, me le prouve que trop. Il est incapable d'avoir imaginé auprès de cette jeune fille un mensonge qui dénoncerait un projet de séduction. Puisque vous vous intéressez à elle au point d'être venu me parler de ce projet de mariage, vous me permettrez de vous demander, êtes-vous absolument sûr d'elle? Vous me dites que vous voulez la doter en souvenir de son père mort à votre service. Ne vous offensez pas de ma question. Elle exerce, me dites-vous, un métier très humble. N'aurait-elle pas trouvé ce moyen d'en sortir? « Monsieur Hardy était logique, interjeta Marcel. Il vous était en effet impossible de vous offenser de son idée. Il ne connaît pas Paul. Mais moi, qui l'ai vu grandir et qui sais tout d'elle depuis sa petite enfance, je me sentais révolté contre le soupçon d'une aussi vilaine intrigue prête à cette petite sainte. Car c'est une sainte. Ma démarche, elle l'ignorait absolument. » Et ma volonté de lui créer une situation qui fut l'équivalent d'une dot. Dominé par le besoin de la défendre, j'ai répondu à M. Hardy. Oui, monsieur, je suis absolument sûr de mademoiselle Gautier, sûr qu'elle ne sait rien de ma visite chez vous, sûr qu'elle ne soupçonne pas ce projet concernant sa dot. Elle aime votre fils, là, j'en suis sûr aussi. Elle croit en lui profondément. Elle s'est fiancée à lui et c'est lui, lui seul, qui a inventé cet obstacle de votre refus à son mariage avec elle à cause de l'absence de dot. Monsieur Hardy me regardait avec des yeux que je connais bien. Je les ai vus souvent aux avocats qui se défient et qui pourtant admettent des hypothèses contraires aux leurs. Vous permettez, fit-il, et avisant le téléphone posé sur son bureau, je l'entendis qui prononçait le nom d'Alfred et qui ajoutait « Descends aussitôt dans mon cabinet, j'ai besoin de te parler immédiatement. » Et se tournant vers moi, « Vous allez constater, monsieur, l'inanité de vos soupçons. De cela, je suis moi aussi absolument sûr. » Alfred Harny arriva 2 minutes plus tard. Sa physionomie, si surveillée d'ordinaire, se décomposa littéralement quand il me vit assis en face de son père. Nous n'avions jamais été présentés l'un à l'autre, mais il m'avait aperçu dans la librairie Gilles Quint, et nul doute que Raymond ne lui renseignait sur ma personnalité. « Tu connais Monsieur Marcelin Bréchet ?» lui dit simplement son père. « Je n'ai pas cet honneur, répondit-il, mais je sais combien Monsieur Bréchet s'est intéressé généreusement au secrétaire de mon éditeur, Monsieur Raymond Gauthier. » Eh bien, c'est justement de la sœur de M. Gauthier que M. Bréchet est venu me parler. Il me dit que tu t'es fiancé secrètement à cette jeune fille et que tu lui as raconté que je m'oppose à ce mariage parce qu'elle n'a pas de dot. J'ai répondu à M. Bréchet que Mlle Gauthier m'était jusqu'alors tout à fait inconnue, totalement, et que tu ne m'avais jamais prononcé son nom, ni d'ailleurs parlé d'aucun projet de mariage. Pas plus avec elle qu'avec une autre, est-ce exact ? C'est exact, répondit Alfred, devenu livide. Dans les prunelles de son père passait un regard que j'appellerais professionnel, celui de l'agréé en présence d'un plaideur qui essaye de le tromper. Alors il se tourna vers moi, de la sincérité duquel évidemment il ne doutait pas. Interrogez-le vous-même, monsieur Bréchet, me dit-il. Et moi, m'adressant au fils directement, « Alors, monsieur, vous accusez Mademoiselle Gauthier d'avoir menti à votre sujet ?»« Je n'accuse personne, » fit le jeune homme. « J'ai demandé en effet à Mademoiselle Gauthier si elle consentirait à être ma femme, en ajoutant que la nature de son métier et son absence de fortune soulèveraient peut-être des objections de la part de mon père. » « Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé tout de suite ?» dit l'agréé, et à moi. « Mais tout s'explique. Mademoiselle Gauthier a interprété ce « peut-être » comme une affirmation. « Non, répondis-je. Votre fils a présenté votre refus non comme un « peut-être », monsieur Harny, mais comme une certitude, et qu'il a dit tenir de vous-même. » Et moi, m'adressant de nouveau au jeune homme contre lequel je me sentais indigné, « Vous avez rapporté vous-même cette soi-disante conversation avec monsieur votre père, et pas seulement à mademoiselle Paul, mais à son frère, le secrétaire de votre éditeur. Alors vous accusez maintenant ce frère d'avoir menti, car il m'a répété vos propres termes. Papa me refuse son consentement, mais il changera d'idée en voyant combien j'aime Paul. Oui ou non, vous êtes-vous donc fiancé avec elle en la trompant ? Et la pauvre enfant vous a cru ? Mais qu'espériez-vous donc ? Oh, j'étais si ému de découvrir une telle fourberie chez ce garçon que je me levai et pris congé de l'agréé sans même esquisser un geste du côté de l'imposteur. Je n'avais pas descendu les marches de l'escalier que maître Harny rouvrit lui-même sa porte et qu'il me criait « Monsieur Bréchet, voulez-vous remonter, je vous prie ?» Rentré dans son cabinet, je vis qu'Alfred en était parti et à l'attitude du père, je compris que le séducteur, car c'est bien une séduction qu'il manigançait, avouait tout. Les émotifs sont ainsi. Ils ne résistent pas à des chocs intérieurs qui les font dénoncer eux-mêmes leurs actes les plus soigneusement cachés. L'indignation de l'agréé contre la fausse comédie jouée par son fils à une jeune fille dont je lui garantissais l'honneur était, je t'assure, émouvante à voir. Et les excuses qu'il a cru devoir me faire me laissent encore tout impressionné. Mais la grande affaire est que Paul soit prévenu que jamais Alfred Harry n'a parlé de ses prétendues fiançailles à son père. Elle ne peut l'être que par Raymond. Il faut que tu retournes chez Gilquin, que Raymond apprenne ce que nous savons maintenant d'une façon certaine, la duplicité d'Alfred Hardy à leur égard, et qu'il convainque Paul de rompre toute relation avec ce débauché qui voulait l'entraîner à devenir elle aussi sa maîtresse en se donnant des privautés de fiancé. Moi, je vais de ce pas chez Thérèse, car c'est la mère, elle aussi doit tout savoir. Raymond Gauthier, bien qu'il eût, par éducation et par métier, le goût et les éléments de la culture, restait dans le beau sens du mot un homme du peuple. Son père, le mécanicien, avait peiné de ses bras, comme son grand-père, lui-même maître serrurier. Cet exercice d'un dur métier manuel façonne héréditairement un type de caractère, chez qui le passage de l'idée à l'action et du sentiment au geste se fait plus rapide et parfois immédiat. Tandis que Marcel lui racontait la scène si étrangement révélatrice de la rue de Richelieu, les manières habituellement courtoises de l'employé de librairie devenaient brusques, son langage rude, ses traits grossiers. « Est-ce possible ?» répétait-il. « Mais quelle comédie abominable il a joué à ma sœur et à moi !» Ces sentiments raffinés dont il nous parlait à tous les deux, dans le style de ce livre que j'ai tant aimé, c'était donc des mensonges. Et moi qui favorisais cette intimité avec Paul, que je considérais comme sa fiancée, quelle duperie! Et lui, quelle impudence! L'exemplaire du lac caché traînait toujours sur son bureau. Il le prit et le déchira d'un geste brutal. Des clients entraient dont la présence obligea le furieux à se contenir. Ces gens venaient justement acheter ce roman que l'employé leur tendit sans le commentaire élogieux dont il accompagnait d'habitude chaque nouvelle preuve du succès de l'écrivain à la mode. « Le métier aura tout de même raison de sa colère, » se dit Marcel. « Il ne peut pas insulter son auteur en public. » Et Harny n'aura qu'un désir, reculer à tout prix cette rencontre. Si le jeune homme avait mieux connu les complications de cet imposteur foncier qu'était Harny, il se serait rendu compte que cette rencontre précisément deviendrait pour ce névropathe un besoin. Le narcissisme sentimental a ce caractère de ne pouvoir se passer du témoin qu'il trompe. Le tromper, c'est se mirer dans son opinion, et vouloir que cette image ne soit pas détruite chez ce complice involontaire. Il se produit là un phénomène de cet être à demi conscient que les psychanalystes appellent le surmoi, et qui est pour nous, mais à côté. Nous défendons ce surmoi contre l'introspection des autres avec une passionnée sincérité qui est en même temps un cabotinage. À peine sorti du cabinet de son père, Alfred Hardy, qui venait de jouer auprès de lui le rôle du fils repentant, imaginait déjà une autre comédie qui préserva son souvenir chez Paul. Il comprenait que cette relation équivoque avec la jeune fille ne pouvait pas se prolonger. Une autre anomalie qu'il copiait à son insu du Volupté de Sainte-Beuve, ce manuel de dualité psychique, voulait qu'il n'eût aucune idée d'en faire sa maîtresse. Il n'avait pas menti dans sa confession à Gauthier. Ce qui le séduisait chez Paul, c'était son innocence et sa liaison avec Madame Cancel satisfaisait d'autant mieux sa sensualité. Celle-ci, dans leur dernière entrevue rue des Marronniers, lui avait annoncé son départ pour Deauville et sa volonté qu'il la suivît. Il lui avait promis de lui obéir avec l'idée d'éviter quelques nouvelles scènes. Il dirait à la pauvre laborantine que s'il avait faim, cette objection de son père relative à la note, c'était par la certitude qu'en effet elle se produirait, et surtout pour mieux préserver leur douce et secrète intimité d'une inquisition paternelle qui, maintenant éveillée, rendrait leur rapport difficile. Et pour qu'elle crût à cette fable, il fallait avoir d'abord persuadé son frère, et pour cela devancer Marcelin Bréchet, qui ne manquerait pas d'aller aussitôt à la librairie raconter la scène de la rue de Richelieu. Il ne soupçonnait pas la visite de l'ancien amant chez la mère, ni que Marcel lui servirait de messager rue Saint-Guillaume. Sa méfiance à l'égard du grand-père le sauva du moins de la rencontre avec le petit-fils. Il prit pour arriver à la librairie Gilquin la voie détournée de la rue de la Chaise, en sorte que les deux jeunes gens ne se virent même pas. Quand il entra dans la boutique, le salut du garçon qui ouvrait la porte, comme celui des deux dactylographes occupés à leur machine dans leur coin habituel, n'annonçait aucun changement, ni le salut de Raymond qui, cette fois, lui donna la main. Ils étaient en public. Cependant, quand leurs doigts se touchèrent, il sentit bien qu'un frémissement contractait celui du frère de Paul, qu'il précéda dans son bureau en lui disant « J'ai à vous parler de choses graves, Raymond. » « Moi également, » répondit celui-ci, qui, reculant et à mi-voix, ajouta « J'aimerais mieux que notre conversation n'eût pas lieu ici. » « Comme vous voudrez, » fit Arnie, qui sortit le premier et qui reprit, toujours avec la crainte de voir surgir Marcelin Bréchet, le chemin par où il était venu. Arrivé presque au coin de la rue de Grenelle, son compagnon l'arrêta en lui prenant le bras et lui cria « Monsieur Alfred Arnie, vous pouvez être un grand écrivain, mais vous êtes un drôle. C'est le frère de Paul Gautier qui vous le dit et qui vous traite comme tel. » En même temps, le justicier assénait au fiancé déloyal plusieurs coups de poing si violents que celui-ci fut rejeté contre le mur. Avant qu'il eût eu le temps d'esquisser un geste de défense, l'apparition de trois hommes qui débouchaient de la rue de Grenelle lui donna ainsi qu'à son agresseur l'impression qu'un scandale allait avoir lieu. Alors il se domina et les poings serrés, il dit à Raymond « Nous nous retrouverons, monsieur. » « Quand et où vous voudrez, » répondit le frère vengeur. Et retournant dans la direction de la librairie, il laissa le coupable et malheureux Arnie paralysé de colère impuissante et se disant « Je ne peux pourtant pas supporter cela, mais que vais-je faire ?»